Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le président français Emmanuel Macron a signé le protocole d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. C'est une signature purement et hautement symbolique, car tous les 30 États membres doivent donner leur accord. La Finlande et la Suède ont décidé de sortir de la neutralité dans différentes crises, particulièrement dans les crises sécuritaires. Bien sûr, il serait étonnant que la Turquie participe, car la Turquie a menacé de geler le processus. La Turquie est également membre de l'OTAN. Et bien sûr, le Parti des travailleurs kurdes, le PKK, est le bienvenu pour la Finlande et la Suède, alors que tous les alliés de Ankara considèrent ce parti comme une organisation terroriste. Nous allons apprendre davantage à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Avec l'abstention des élus RN et le vote contre de députés LFI, le texte qui ratifie l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN est passé haut la main à l'Assemblée nationale. Le Parlement français a ratifié les protocoles d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN par un vote de l'Assemblée nationale le 3 août, après la décision historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l'opération militaire russe en Ukraine. Les députés ont adopté le texte par 209 voix contre 46, avec le soutien de LR droite, du Parti socialiste PS et des écologistes. L'abstention du RN et le vote contre LFI. Suède et Finlande ont toutefois besoin d'une ratification des 30 États membres de l'organisation pour bénéficier de la protection de l'article 5 de la Charte de l'OTAN en cas d'attaque. Pour l'OTAN, c'est l'heure du réveil après la mort cérébrale décrite par Emmanuel Macron, a estimé le président centriste de la Commission des affaires étrangères, Jean-Louis Bourlange, Modem. L'insoumis Aurélien Saint-Toul a dénoncé un processus dangereux avec la superposition de l'OTAN et de l'Union européenne. Laurent Jacobelli, RN, a critiqué un signal de défi à la Russie avec ce processus d'adhésion en présentant l'OTAN comme une vitrine commerciale du complexe militaro-industriel des États-Unis.
Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour, et aujourd'hui je suis depuis Paris.
D'accord. Excusez-moi donc de Paris, et un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, à vos téléspectateurs, et aussi à M. Cornu, que je retrouve toujours avec plaisir.
D'accord, c'est un débat donc. J'espère que vous allez vous contredire si vous n'êtes pas d'accord. Alors ma première question va s'adresser à M. Bernard Cornu depuis Paris donc. M. Cornu, alors d'un coup la France décide de signer le protocole d'adhésion de la Finlande et de la Suède donc à l'OTAN. Alors pourquoi ça? Car c'est une signature hautement symbolique, n'est-ce pas?
C'est symbolique comme le reportage l'a souligné parce qu'il faut qu'il y ait une unanimité des 30 membres actuels. Et il y a encore quelques États qui n'ont pas signé dans l'Europe de l'Ouest et au sein de l'Union européenne. La France vient de signer, enfin le président a confirmé le vote du Parlement. Mais la Turquie a posé ses conditions lors de la dernière réunion de l'OTAN à Madrid fin juin. Et elle a dit qu'il fallait que les gens qu'elle désigne comme terroristes et qui sont résidents, les Kurdes turcs qui sont résidents dans ces pays, notamment en Suède, soient jugés, condamnés, selon le point de vue du président turc, Mais effectivement, selon la loi suédoise ou finlandaise et selon aussi les recours possibles de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en fait, là, on voit, ce n'est pas un chantage, mais ce sont le constat qu'il n'y a pas de juridiction, qu'il n'y a pas de justice universelle et que chaque pays a ses lois, chaque pays a sa propre définition de ce qu'est un terroriste ou ce qu'est que le terrorisme. Et donc il y a des divergences sur l'appréciation des actions militantes d'opposition plus ou moins violentes face à des États plus ou moins violents. En fait, on dit toujours que l'État a le monopole de la violence légitime quand il fait face à une émeute armée. Et donc, en fait, on a aussi ce problème de ce que c'est la démocratie, ce qu'ont les droits de l'homme. Il y a des divergences dans tous les pays, et tant qu'on n'a pas des moyens de justice universelle, dans lequel même les chefs d'État ne pourraient pas échapper à cette justice universelle, ou disons sinon qu'on ait une convergence des systèmes juridiques, des définitions, des points clés de ce qu'est une agression, de ce qu'est une guerre, de ce qu'est une rébellion, ce qu'est une rébellion armée, et donc ce qu'est le terrorisme, on ne pourra pas sortir de ce dilemme, de cette difficulté, de trancher des cas difficiles comme ça. Donc, en l'absence de ça, je pense qu'effectivement, le président turc ne soumettra pas la question à son parlement pour éviter qu'il y ait effectivement une ratification complète, une intégration de ces deux pays, Finlande et Suède, dans l'OTAN. Voilà, donc je ne pense pas que c'est un chantage, c'est une divergence des systèmes de justice, des systèmes de définition terroriste, et c'est grave. Parce que ce que moi je considère ou ce que certains considèrent comme une guerre d'agression, il y en a eu récemment, depuis 20 ans, en 2003, en 2011. Il n'y a pas eu de parcours de la justice pour mettre en justice les responsables de ces guerres d'agression. Donc vous voyez, c'est un problème très large, c'est le problème de la justice universelle qui puisse s'étendre à l'ensemble du monde entier sur les mêmes principes juridiques. Et pour pouvoir attaquer quiconque devrait se présenter devant cette justice.
Absolument.
Sans exception.
Oui. Monsieur Luc Michel, bon, déjà, le président français savait que la Turquie, entre autres, allait s'opposer, donc allait geler le processus donc, de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Pourquoi faire ce symbole, enfin cette signature? Quelle est vraiment l'intention du président français? Monsieur Luc Michel? Monsieur Luc Michel, est-ce que vous nous entendez? Malheureusement, nous avons un petit problème technique et nous allons continuer avec Monsieur Bernard Cornu qui est avec nous depuis Paris. Alors, Monsieur Cornu, bon, en attendant qu'on entende Monsieur Luc Michel, déjà que le président français savait donc absolument que cette décision allait être opposée par la Turquie, qui allait justement geler le processus donc de l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Mais il faut le dire quand même que d'un coup, la Finlande et la Suède décident de sortir de la neutralité et donc de défendre peut-être la cause européenne dans les différentes crises, entre autres la crise bon, ukrainienne, par exemple.
Ça, de toute façon, c'est très clair que c'est l'action de la Russie envers l'Ukraine qui est fait suite à des problèmes non résolus, à une avancée de l'OTAN à l'encontre de promesses, au contraire de promesses orales mais très sérieuses qui avaient été faites. Ceci a abouti, faute d'un accord, faute de négociation sur le processus de Minsk, à, disons, une agression ou une opération spéciale, comme le déclare la Russie, mais qui est une opération armée très grave et qui a fait déjà beaucoup de victimes, beaucoup de débats face à des responsabilités qui ne sont pas encore établies. Je vais profiter encore de l'absence de M. Michel pour dire que ce problème concerne aussi la France, puisque on est ces jours-ci l'anniversaire, il y a une trentaine d'années, du massacre de militants de Nouvelle-Calédonie. Qui était très actif pour demander l'indépendance, qui avait même pris des personnes en otage, mais la France officielle les a considérés comme des terroristes et elle a décidé d'une opération qui a tué toutes ces personnes dans la grotte d'Ouvéa. Et je rappelle aussi que le président Mitterrand, quand il y a eu le début de la rébellion en Algérie, y compris par les armes, le 1er novembre 1954, M. Mitterrand, qui était ministre de l'Intérieur, a traité tous ces gens-là de terroristes. Donc, vous voyez, c'est le problème de la capacité d'une justice universelle qui puisse apporter des définitions claires sur ces problèmes de rébellion, de soulèvement et aussi d'action militaire des États.
Michel, vous êtes avec nous donc depuis Bruxelles. Quelle est vraie l'attention du président français? Est-ce qu'il faut croire dans la bonne volonté du président français dans la signature du protocole d'adhésion de la Finlande et de la Suède, alors qu'il sait très bien que ce protocole ne va pas donc être donc accepté par certains membres, dont la Turquie?
Il y a une série de choses qu'il faut dire, c'est-à-dire que tous les débats sur la justice universelle, le terrorisme, etc., ce sont des sucreries empoisonnées de l'agenda occidental qui ne concernent pas le reste de la planète. Il y a quatre choses à dire. Tout d'abord, c'est qu'à l'occasion de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont resserré une étreinte totale sur l'OTAN. Les projets de défense européenne autonome. Toutes ces imbécilités que Macron prétendait défendre, eh bien, il vient de démontrer que celles-ci n'existent plus. Mais en fait, la soi-disant neutralité de la Finlande et de la Suède n'existait déjà plus depuis des années, puisqu'elles étaient intégrées militairement déjà dans l'OTAN et qu'au niveau de leurs armements, elles sont entièrement équipées par des équipements américains. Mais il y a une immense hypocrisie dedans. Tout d'abord, l'hypocrisie, elle concerne le PKK, puisque ces gens qui sont considérés comme des terroristes par les Turcs, ce sont les principaux alliés des États-Unis dans le nord-est de la Syrie, sur l'Euphrate. C'est grâce au PKK et à leur branche syrienne, l'FYD, que les Américains occupent le territoire syrien et volent le pétrole et le gaz syrien. La seconde hypocrisie, c'est que on a dit aux
Malheureusement, notre liaison a été coupée depuis Bruxelles. Monsieur Bernard Cornu, votre réaction jusqu'ici face aux propos de Monsieur Luc Michel?
Mais je crois que nous sommes d'accord, c'est qu'il n'y a pas de justice universelle. Moi, en revanche, j'insiste qu'elle serait possible, il faut la faire, il faut que les peuples demandent ces actions qu'il y ait à la création d'une justice universelle, d'une extension des pouvoirs, des moyens et de la compétence de la Cour pénale internationale pour qu'on puisse justement assurer des définitions du droit, qu'est-ce que le terrorisme, qu'est-ce qu'une agression armée, et qu'on puisse juger justement des responsables d'agression armée ou de menaces ou de chantage pour qu'il y ait moins de divergences entre les perceptions de la justice dans les différents pays. Effectivement, aujourd'hui, l'OTAN et les pays principaux de l'OTAN, les États-Unis qui le conduisent, font ce qu'ils veulent parce qu'ils se sont assurés d'une impunité totale. Et la France aussi, dans certains cas, elle s'est assurée aussi d'une impunité face à des actions militaires. Et l'Angleterre aussi, d'ailleurs, souvent en collusion avec les États-Unis. Donc, je crois que nous sommes d'accord. Monsieur Luc Michel est en colère parce qu'il n'y a pas du tout de justice. Il y a donc beaucoup d'hypocrisie. C'est vrai que la Suède et la Finlande se sont armés avec les armes américaines pour la plupart de leur équipement. Voilà. Mais je crois que nous sommes d'accord. Mais moi, je dis qu'il y a des solutions et que les solutions sont l'émergence d'une justice universelle qui puisse mettre fin à l'impunité, car l'impunité est toujours la mère de la prochaine guerre.
Monsieur Cornu, enfin, tant que l'hypocrisie demeure au sein de la société, donc, comment on peut espérer une justice universelle?
Ben, il faut justement communiquer là-dessus, montrer au grand public que c'est ceci qui est l'exigence, rappeler que les chefs d'État des pays membres du Conseil de sécurité se sont assurés de l'impunité eux-mêmes et qui donc feront changer le système des Nations Unies. Et je sais que le mouvement des non-alignés, par exemple, une des organisations créées à Bandung il y a maintenant plus de 50 ans, 70 ans, près de 70 ans, demande cette réforme de l'ONU pour qu'il soit mis fin à ce pouvoir exorbitant des
Absolument.
cinq membres permanents, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et la France. Donc je pense qu'il faut communiquer là-dessus plus largement et dire qu'il y a des solutions pour donner espoir aux gens, que dans tous les pays, que ce soit au nord, chez les pays riches ou des pays occidentaux, qu'il fallait une justice. Et pour compléter cela, d'ailleurs, il faut que cette justice universelle ait des moyens. Et comme je l'ai souvent dit à ce micro, l'essentiel pour assurer la solidarité, c'est d'avoir une taxe globale que le monde entier paye. Et la meilleure assiette pour cela, ce sont les armements, les productions d'armes, les consommations d'énergie fossile et aussi les transactions financières qui assurent actuellement la croissance des inégalités. Parce que dans le système actuel financier, quand on est déjà assez riche, on peut se payer un conseiller financier, faire circuler l'argent dans le monde entier et s'enrichir. On le constate maintenant depuis 30 ou 40 ans, on ne cesse d'avoir une croissance des inégalités à la
Absolument.
fois entre les pays et entre les personnes.
Oui.
Comme vous le savez, un petit nombre de personnes aux États-Unis et même aussi en France possèdent une grande partie des ressources, enfin des ressources financières, des biens du pays. Donc
Tout
ceci
à
est
fait.
très injuste. Et il faut le corriger par des mesures de justice très fortes. Je
Absolument.
pense qu'on peut prendre conscience de cela si on en parle largement dans les médias.
Absolument. Monsieur Luc Michel, je vous demande de bien vouloir nous excuser pour donc ce problème technique. Alors, vous étiez en train d'évoquer les quatre points et vous êtes arrivé à l'hypocrisie de certains membres de l'OTAN.
Avant, je voudrais dire quelque chose. Je suis opposé totalement à l'idée de justice universelle. C'est une théorie qui est des théories de l'impérialisme américain et elle est défendue en particulier pour George Soros. Je défendais devant le tribunal pénal contre la Yougoslavie, avec mon ami le regretté avocat Jacques Vergès, le président yougoslave Milosevic, et nous avons vu combien toutes ces idées de justice universelle étaient défendues par nos ennemis. Donc j'y suis totalement imposé. Je ne pense pas qu'on gagnera quelque chose et à reprendre les théories de l'agenda américain. Maintenant, ceci nous éloigne du débat sur l'OTAN. Il y a quatre choses à dire. Tout d'abord, c'est qu'il y a une hypocrisie sur le PKK, puisque le PKK, qui est défini comme terroriste par la seconde armée de l'OTAN, la Turquie, c'est la principale alliée des États-Unis en Syrie, qui permet l'occupation du nord de l'Euphrate par les États-Unis et le pillage du gaz et du pétrole russe. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que l'OTAN prétend auprès des Suédois et des Finlandais qu'elle va assurer leur sécurité vis-à-vis de la Russie, alors qu'elle met gravement en danger ces deux pays, puisque le déploiement des armées de l'OTAN aux frontières de la Russie, avec probablement des armes nucléaires tactiques telles qu'il y en a déployées sur les bases américaines de Kleinbrogel en Belgique et de Rammstein en Allemagne, vont faire que ces deux pays deviennent des cibles nucléaires pour la Russie. La seconde chose qu'il faut dire, c'est que c'est toute l'hypocrisie de Macron lui-même. Macron prétend qu'il voulait une défense européenne autonome, etc. Et en fait, les États-Unis resserrent une empreinte totale sur l'OTAN. Ils dominent totalement les pays européens par l'OTAN. C'est à cela que l'Ukraine sert de prétexte, évidemment. La troisième chose, c'est que l'idée des pays neutres, elle est en train de disparaître. Il n'y a plus la Suède, il n'y a plus la Finlande, mais il y a un troisième pays qui est concerné, et c'est plus grave encore, c'est la Suisse. Il y a 48 heures, la Suisse a proposé de représenter à Moscou les intérêts de l'Ukraine, et la diplomatie russe a refusé en expliquant que la Suisse n'était plus un pays neutre, mais qu'il était un pays ennemi de la Russie et allié de l'OTAN. Ça fait 20 ans que l'armée suisse a des missions militaires aux côtés de l'OTAN en Afghanistan depuis l'agression de ce pays par les Américains. Donc les Américains sont en train de détruire l'idée de neutralité et ils sont en train de détruire la sécurité internationale. C'est cela qu'il faut retenir de tout cela. Tout le reste, ce sont des faux débats ouverts par les Américains, les idées de justice internationale, la querelle sur le PKK, etc. Tout ceci, en fait, ça désigne en plus une grande opération de remodelage au profit de l'impérialisme américain.
Oui, il y a un quatrième point, Monsieur Luc Michel.
Oui, il faut retenir encore une dernière chose dans cette affaire, c'est que maintenant, évidemment, l'OTAN se rapproche dangereusement des frontières de la Russie et donne raison à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a lancé l'opération spéciale en Ukraine pour empêcher l'OTAN d'être déployée en Ukraine. Et maintenant, on déploie aux frontières de Leningrad, à 30 km de Leningrad, on déploie les armées de l'OTAN en Finlande et autour de la mer Baltique. La mer Baltique, jusque maintenant, c'était un espace de coopération entre les différents pays comme l'Arctique. Aujourd'hui, avec l'entrée de la Suède et de la Finlande, on va en faire un espace de guerre, d'autant plus que la Russie ne va pas se laisser faire et que l'enclave de Kaliningrad qui est déployée, qui est un territoire russe entre la Pologne et l'Allemagne et la Lituanie, aujourd'hui va devenir une plateforme militaire de l'armée russe pour neutraliser les flottes de l'OTAN dans la Baltique. Donc une fois de plus, l'OTAN vient de favoriser la paix et d'être, comme elle le raconte, le bouclier de l'Europe. L'OTAN, c'est un facteur qui aggrave la confrontation mondiale et les risques de guerre.
Tout à fait. Monsieur Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Je suis tout d'accord avec lui pour dire que l'extension de l'OTAN, depuis longtemps, est un facteur de risque, un facteur de danger très grave pour l'Europe. Et l'entrée éventuelle de la Finlande et de la Suède aggraverait encore ce risque et ce danger d'armement et on consacrera encore plus dans les pays occidentaux d'argent pour l'armement. Donc tout ça, je le rejette aussi. Là, le seul point où je ne suis pas d'accord, c'est que l'extension d'une justice universelle n'est pas du tout un agenda américain. Au contraire, ils craignent ceci, ils ne sont pas entrés dans le traité de Rome de la Cour pénale internationale, ils ne veulent pas son extension, ils ne veulent pas actuellement d'une réforme de l'ONU. Donc effectivement, ces réformes, cette extension de la justice universelle, d'autre part, et j'ai cité par exemple tout à l'heure, le mouvement des Noirs alignés qui se relance, qui se réunit à nouveau et qui, disons, représente une très grande fraction de l'humanité, des peuples du monde. Et donc je pense qu'il y aura un mouvement de fort pour contester le système actuel et le réformer dans un sens de justice. Et je ne crois pas que ceci soit un agenda du gouvernement américain, qu'il soit démocrate ou qu'il soit républicain.
Monsieur Luc Michel, vous voulez bien réagir, je vous prie.
Caricaturer ce que je viens de dire, ce n'est pas un agenda du gouvernement américain, mais c'est un agenda des réseaux mondialistes américains, ceux de Soros, d'Obama, de Clinton, etc. Le plus grand défenseur de la justice indépendante, c'est George Soros, et c'est le grand financier actuellement de la CPI et du Tribunal pénal international que j'ai. Il faut ajouter une chose, puisqu'on parlait des non-alignés, c'est que la soi-disante justice internationale, elle a servi puissamment à détruire la Yougoslavie qui n'existe plus aujourd'hui, en attaquant frontalement le gouvernement de Milosevic. C'est au tribunal pénal pour la Yougoslavie de La Haye qu'on a achevé de détruire la Yougoslavie. Il faut donc évidemment constater que la soi-disant justice internationale, c'est toute l'hypocrisie des Américains. Ils n'ont pas signé les statuts de Rome, ils refusent de s'y soumettre, mais ils veulent que tous les autres pays de la Terre acceptent de s'y soumettre. Et en particulier, ils ont à deux reprises, au moment de la guerre contre la Géorgie et maintenant de la guerre contre l'Ukraine, ils tentent de faire poursuivre d'ailleurs par la CPI, la Russie qui ne se laisse pas faire. Donc la CPI, moi je connais bien le problème parce que je la combats depuis 20 ans, en particulier en Yougoslavie et en Afrique. C'est un instrument puissant des pays occidentaux et de l'OTAN. Mais les Américains ont, par leur immense hypocrisie, évidemment, ont refusé de se soutenir à ce système, alors qu'ils présentent, ils soumettent tous les autres pays de la Terre.
Monsieur Bernard Cornu, un dernier mot pour terminer, je vous prie.
On serait d'accord, mais il sera universel, effectivement, quand on verra devant cette justice Monsieur Bush, Monsieur Blair, Monsieur Cameron, Monsieur Sarkozy et quelques autres que je ne vais pas citer ici, mais que vous pouvez bien aussi identifier facilement. Voilà, c'est pour dire que nous sommes à peu près d'accord. C'est difficile, mais il faut en parler et il faut y arriver. Et je pense que ce sera universel lorsque jour, effectivement, les agresseurs récents seront devant cette justice. Mais ça ne viendra pas du côté américain, en tout cas.
Absolument. Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.